I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va passer en revue, on va dire qu'on commence doucement hein, la saison, on va parler de Ni Une Ni Deux, un film avec Mathilde Seigner x2. Et pour analyser ce formidable comeback, j'ai l'ensemble du corps enseignant de la team MDR, à savoir la passionnée Perrine Quetson.
Et Daniel.
Et la très analyste en herbe, Virginie Adan.
Salut.
C'est une de nos plus grandes comédiennes, Julie Varenne. Bonsoir.
Le problème, c'est que je vieillis, il y a plein de rôles que je peux plus jouer.
Tu vas quand même pas te faire un lifting.
Bonjour, je suis votre plus grande fan.
C'est totalement toi.
Quelle horreur.
C'est très, très bien.
C'est horrible, je suis complètement défigurée, on dirait un poisson mort.
Elles sont jamais contentes.
Le tournage démarre lundi. C'est l'occasion inespérée de faire repartir ta carrière.
Tu peux pas faire un film avec cette tête-là?
C'est sûrement une solution.
Je cherche une doublure.
Alors si on vous relook un peu, je suis sûre que vous pourriez me remplacer.
Incognito, bien sûr.
Alors, c'est quoi votre taille?
38.
Je trouve que vous faites un peu plus, hein.
Là, vous allez être actrice. Une actrice, ça mange pas.
À vous de jouer.
La critique de la Société du Spectacle est quand même posée là. C'est une actrice, ça mange pas. Donc c'est le rôle de Mathilde Seigner, x2, puisque Mathilde Seigner joue originalité une autre Mathilde Seigner. C'est à la suite d'une opération chirurgicale et esthétique un peu loupée, une comédienne doit faire appel à son sosie et comme par hasard, elle est tombée sur une fille qui la ressemble étrangement, et puisqu'il s'agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l'existence.
Spoiler alerte quoi.
Bah, c'est le début du film en même temps. Et
ça vient, on s'en doute, mais ça vient au bout d'une bonne demi-heure de film. Ah ouais, alors,
ouais. Spoiler alert, Perrine, comment tu te sens pour ce comeback avec ce bon film qualité française?
Mais non, mais justement, j'y allais un petit peu. Je savais pas où j'allais, honnêtement. J'ai même pas lu le pitch, pour être honnête.
T'étais si excitée à l'idée de revenir.
J'étais juste tout contente. J'étais genre, oui, là, aller voir du cinéma français, ça va être super. Et en fait, voilà, Mathilde Seigner, il y a tout un passif, hein, camping, tout ça, plein de choses qu'elle transporte avec elle. Donc je m'attendais un petit peu à une grosse comédie. Et finalement, je suis un petit peu tombée de ma tour, d'une certaine façon, qui n'était pas très haute, hein, soyons francs. Mais ce n'est pas une grosse comédie, contrairement à ce que les gens dans la salle avaient l'air de vivre par rapport à moi. Mais c'est plutôt un film tendre. C'est assez marrant, d'ailleurs. Ouais. C'est assez tendre comme film. Il y a un regard... D'ailleurs, on entendait la voix de Mathilde Seigner dans la bande-annonce, là. Elle avait une voix un peu à la Jeanne Moreau. Beaucoup plus grave, finalement, que dans le film. C'est assez marrant. Mais donc voilà, on a cette double Mathilde Seigner. C'est assez intéressant, parce qu'en fait, finalement... C'est pas tant un film sur vraiment chercher à faire de la grosse blague sur oh là là, lui ressemble, elle lui ressemble pas, qui suis-je ou qui ne suis-je pas. C'est un film d'abord sur le monde du cinéma. C'est assez marrant parce que finalement c'est un portrait de la part de Anne Jaffery qui est la réalisatrice du monde du cinéma. Donc en fait c'est ce qui l'intéresse en premier lieu dans le film, c'est de nous raconter comment ça se passe et quoi les coulisses. Alors avec tous les poncifs plus ou moins du qu'on peut entendre.
Et surtout du point de vue de la star. Puisque c'est le maquillage de la star, la coiffure de la star.
Bah, du point de vue de la star, ouais. Mais en fait des deux, c'est-à-dire le point de vue de la star blasée d'un côté, qui est donc cette femme, j'ai oublié le nom de son personnage, mais voilà, l'actrice.
Varenne.
Julie Varenne.
Et Laurette, c'est ça.
Et Laurette. Et donc en fait, le double point de vue, il y a celui qui est très blasé de Julie Varenne et celui de Laurette qui est au contraire toute pleine d'étoiles dans les yeux quand elle découvre, oh mon Dieu, le monde du cinéma. Donc j'aime bien cette espèce de double regard finalement sur le cinéma qui est à la fois quelque chose, une industrie comme une autre, et finalement on peut finir par s'y ennuyer, et aussi elle est assez injuste, et en même temps on se regarde plein de paillettes en disant ah ben non, le cinéma c'est incroyable, c'est magique, tout est formidable et tout le monde il est gentil quoi.
Et toi Virginie, est-ce que tu es aussi positif par rapport à tes attentes?
Alors, exactement le même ressenti. Alors, c'est moins le côté cinéma qui m'a intéressé. Enfin, ça m'a intéressé évidemment, mais. Alors, je vais essayer de faire une phrase qui a un sens quand même. J'ai un peu comme Perrine, j'y suis allée en mode j'y vais, mais j'ai peur. Et vraiment, et en même temps, parce que le seul pitch que j'avais, c'était Mathilde Seigner x2. Ça peut faire peur hein, quand même. Et j'avais rien lu sur le film, je savais pas de quoi ça parlait. Pareil. Donc, j'y suis allée, je me suis laissée surprendre. Et j'ai été surprise de ne pas repartir terrifiée, de ne pas me dire « mon Dieu, rembourser mon invitation ». Et donc, en ça, je trouve que c'est déjà mieux que ce que j'espérais. Parce que je partais avec un a priori négatif, ce qui n'est pas très bien. Mais bon, c'est vrai que, comme disait Perrine, Mathilde Seigner, elle est impassive quand même.
C'est ça.
Et par ailleurs, après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film sur le cinéma, mais c'est aussi un film sur... sur une enfance un peu brisée aussi, je trouve, quelque part, parce que c'est quand même l'histoire de jumelles qui ont été séparées très très jeunes et à qui il manque une partie d'elles-mêmes, en fait, dans un cas comme dans l'autre. En fait, c'est l'histoire de deux femmes qui sont en crise, puisque d'un côté on a Mathilde Seigner, la star de cinéma qui joue un peu une Isabelle Huppert, en fait, en quelque sorte, j'ai l'impression, enfin le look est clairement recherché dans cette direction, Isabelle Huppert mit Emmanuel Béart pour la chirurgie esthétique foirée, et de l'autre
qui ne nomme jamais d'ailleurs
c'est qui cette actrice qui, ouais, effectivement, à chaque fois, c'était un peu
Emmanuel Béart.
Ah, je pense, ouais.
Je pense, deux fois, ils le font le coup.
La foirade des lèvres, ouais, c'est complètement Emmanuel Béart. Et de l'autre, on a une version un peu cagole, type Lorelai Gilmore, mais en plus cagole, c'est-à-dire mère célibataire qui élève sa fille dans un petit village où elle est la mascotte de tout le monde. Et les deux ont quelque chose qui manque à leur vie et se retrouvent... en échangeant un petit peu de vie d'une certaine manière. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est assez touchante et en même temps c'est censé être une comédie. Effectivement, moi, les gens qui étaient dans la salle avec moi, il y en a certains qui ont beaucoup ri, mais je trouve que, alors même que dans le propos du film il y a un truc de type la comédie c'est drôle quand on y va un peu au tractopelle, c'était pas le cas et donc c'est pas ultra drôle.
J'ai un vrai souci, c'est que moi j'ai pas du tout rigolé.
Ouais. Moi non plus,
pas trop. Hein,
ouais. Non, et surtout, y a une vision de la comédie, puisqu'en fait tout le propos c'est que cette actrice, donc Julie, va ensuite se retrouver dans une comédie en fait, et expliquer qu'elle est inapte à la comédie. Je me suis demandé si c'était... Alors évidemment, quand tu vois le rôle, tu te dis c'est Isabelle Huppert en fait. En fait, ils n'ont pas eu Isabelle Huppert et ils l'ont filé à Mathilde Seigner. Et en fait, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, c'est devenu la thérapie de Mathilde Seigner, puisque c'est quand même une nana qui s'est fait un nom sur les comédies et pas sur les drames. Et tout d'un coup, de la voir incapable de jouer une comédie et de se retrouver... de donner à sa jumelle l'opportunité de faire des grosses gaudrioles en sachant que le film qu'ils sont en train de tourner n'est pas du tout drôle. Hein. On voit 2 minutes, il y a un film dans le film.
Ah ben c'est genre un téléfilm sur une femme présidente de la République et c'est ça qui est drôle, non ? J'ai cru comprendre que c'était ça.
C'est Agathe Cléry Empire, enfin vraiment.
C'est ça,
il y a une fausse affiche dégueulasse.
Oui, la fiche d'Agathe Cléry.
Non mais vraiment, c'est pas du tout drôle et de la voir.
Et les gags sont pas drôles, hein, clairement. Non. Le truc avec le curé là.
Oui, j'ai pas compris non plus le curé qu'elle avait sauté là. Mais oui.
C'est curé qu'elle a sauté, c'est ça ?
Oui, enfin, elle a sauté l'acteur qui joue le curé et ensuite il joue dans une scène où elle est censée être super drôle parce qu'elle dit qu'elle peut pas s'épiler en fait.
Voilà.
C'était le gag. Et c'est vrai que les gens rient. Bah, Romain, tu ris là.
Non, mais je ris parce que j'ai votre analyse en fait, parce que moi ça n'avait pas du tout fait rire.
Ah bah non.
C'est plus tendre que drôle.
Et un peu dans ce que tu dis par rapport à Mathilde Seigner qui est quand même connue par la comédie, là en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle se sert d'une comédie pour essayer de montrer qu'elle peut avoir genre un rôle un peu émouvant et profond avec Julie Varenne. J'ai l'impression que c'était un peu un des points du film aussi.
Alors, mais... on attend le duo Mathilde Seigner-Louis Garrel pour le prochain, mais on n'y est pas encore. On va le voir. On va s'écouter un petit extrait.
Distante.
Bonjour, Julie.
Bonjour.
Bonjour.
Il paraît qu'elle est odieuse. Elle saute sur tout ce qui bouge. Mmh.
Bonjour.
Bonjour, Julie.
Bonjour, Julie. j'ai un petit souci encore avec le film. C'est tout le cast, en fait. Alors d'abord, dès qu'il y a François-Xavier de Maison... Je suis désolé, j'ai un vrai problème.
Mais je crois que t'as un problème avec François-Xavier
de Maison. François-Xavier de Maison, genre j'arrive jamais à le trouver bien. Et
ah ouais, il m'a pas dérangé.
Et là, en l'occurrence, il fait le taf. Je m'excuse, Franck Xavier. Par contre, maintenant, j'ai une nouvelle tête de dire que c'est Ariel Elmaleh.
Ah oui, alors là.
Il joue le Love Interest. Il a absolument pas le.
Vraiment pas du tout.
Ah ouais, moi j'ai.
Je trouve qu'il manquait un peu de relief, mais comme beaucoup de choses dans ce film finalement qui manquent de relief, parce qu'ils ont, il y a quelque chose qui a pas été assez poussé, même dans le. Enfin, je sais pas, ça manquait de gags, quoi.
Ce qui intéresse de toute façon dans le film, ce n'est que. Comment elle s'appelle, Mathilde Seigny, il n'y a que ça qui les intéresse, donc finalement tout le monde est un peu effacé, hein, même Marianne Chazelle,
tout le
monde est un peu effacé, mais finalement vous parliez tout à l'heure de Mathilde Seigny en Zaza, en Isabelle Huppert, moi j'avais pas pu m'empêcher au fur et à mesure du film, plus le film avançait, plus je voyais pas du tout Isabelle Huppert, mais je voyais Emmanuelle Seigny en fait, et à un moment donné j'avais un truc où justement sur l'idée de la thérapie, donc pourquoi pas l'idée de la thérapie de cette femme qui a été mise dans la comédie, qu'on a du mal à imaginer dans le drame, et qui prend le propos inverse dans le film, mais moi je voyais au bout d'un moment une réflexion sur le rapport à la sœur, le rapport à la sororité, et à un moment donné, notamment avec un plan de fin sur un plateau de télé, là elle ressemble énormément à Emmanuelle Seigny, elle joue comme Emmanuelle Seigny, elle parle comme Emmanuelle Seigny, et à un moment je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport entre deux sœurs, l'une qui est vue dans des films plus d'auteurs, notamment par son mari, etc., mais qui est plus vue que dans des films d'auteurs, et l'autre qui est vraiment imaginée dans la comédie très grand public, et un truc à régler aussi entre ces deux sœurs-là, qui en même temps se complètent et ne se comprennent pas d'une certaine façon, du moins professionnellement. Et je trouvais que c'était, y avait quelque chose qui était assez joli, où elle me donnait la sensation, pas de régler ses comptes, mais plutôt d'essayer de comprendre son rapport à sa sœur. Et ça, je trouvais ça plutôt... je trouvais ça plutôt agréable dans le film.
Ça, c'est vrai, puisqu'en plus, vu qu'il y a un côté méta très très cultivé, effectivement, ça permet de mettre un peu en perspective ce qu'est Mathilde Seigny dans le paysage du cinéma français.
Ouais. Et à la fin, c'est tellement méta, puisqu'on retombe après, ça devient le film dans le film, et en fait, tu te rends compte que depuis le début...
C'est le film écrit par Arié, quoi.
Arié, en fait, oui.
Et c'est là où on est proche du Almodovar, et c'est complètement fou, le dernier Almodovar.
C'est le film le plus proche du dernier Almodovar.
C'est le film le plus proche du dernier Almodovar.
Et c'est le plus beau compliment qu'on peut lui faire. Qu'est-ce qu'on retient, en fait, de Mathilde Seigny en tant que comédienne? Parce que, pour nous, c'est le cul qu'elle montre à Gatineau, quoi. Enfin, je veux dire... Quoi, mais écartez pas vos yeux, c'est Camping 1.
Ah oui, non, attends, j'étais pas du tout là-dessus. J'étais dans le film, j'étais de quoi il parle.
Non, c'est cette filmo un peu particulière quand même de Mathilde Seigny, qui est très populaire et en même temps, tu sens qu'elle a des aspirations autres, l'influence de sa sœur. Et enfin, comment ça se fait qu'elle fait ça? Elle fait un rôle. Elle a 45 ans dans le film, clairement, il y a tout un décalage avec son vrai âge. Enfin, c'est très particulier. Je me demande ce que représente ce film pour elle.
Un peu pour reprendre sur ce que disait Perrine, en fait, je pense qu'il y a un côté. C'est vrai que le but du film, c'est de montrer une actrice qui joue dans des films d'auteur et à qui on dit qu'elle n'a pas le talent pour jouer dans de la comédie, en fait. Et que, en fait, jouer des comédies, même des comédies bourrines type Camping, c'est difficile et ça requiert une certaine forme de talent, un talent comique. Et ce qu'elle met en valeur, c'est il faut l'avoir où on l'a pas. Et même des grandes actrices peuvent ne pas l'avoir, vu qu'elle joue censément une grande actrice qui n'a pas ce talent. Et je pense que ce film, ça sert un petit peu aussi de montrer, vous voyez, moi aussi, je compte dans le paysage français, j'ai du talent, en fait.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en fait, au contraire, c'est un film un petit peu qui la met en avant d'une certaine façon, montrer qu'elle peut faire plusieurs choses aussi, mais surtout dire, en fait, à la fin du film, c'est quand même le bonheur, c'est simple, comme un croissant dans un café d'un village à Aix-en-Provence, ou c'est simple comme une spontanéité dans la comédie. Donc en fait, elle est en train de nous expliquer que finalement, ce qu'elle fait depuis le début, depuis le début de sa carrière, cette espèce de simplicité, de bonhomie, de côté ultra populaire, c'est le bon chemin, en fait. C'est elle qui a le bon chemin depuis le début, en fait, d'une certaine façon. Et je trouve que c'est presque un film d'auto-célébration qui passe par une partie psychanalyse que je trouve finalement pas désagréable, même si au début du film, j'avais l'impression qu'elle jouait en décalage avec tout le monde. Il y avait un truc où j'ai l'impression qu'elle répondait 3 ans plus tard aux répliques des autres, donc je trouvais ça un peu chelou.
Elle était avait
un timing très bizarre de réponse.
Surtout quand elle est ces scènes avec Marianne Chazelle, en plus.
Oui, c'était assez étrange.
C'est pour montrer qu'elle était un petit peu off dans sa vie ou un truc comme ça. Enfin, c'était le côté un peu psychologisant, je pense, du film aussi, d'essayer de mettre en valeur qu'elle était en crise ou je sais pas.
Écoutez, vous avez été globalement très positive, alors que moi j'étais partie vraiment, genre, pour moi c'était même pas réalisé. Je trouvais que les décors étaient
Ça fait un peu téléfilm quand même.
Les décors sont assez
dans la cuisine bleue.
Enfin, je suis un peu biaisée par la réalisatrice qui est quand même plutôt connue, qui s'est plus illustrée par la télé en fait, et je trouve que ça se ressent.
Elle a réalisé Ange et Gabriel.
Oui, c'est son seul.
Un petit souvenir de cinéma, puisque j'étais le seul dans la salle ce matin-là à la séance de 9h au Hall. Et bah, j'ai, c'est ces séances magiques dont tu te souviens toute ta vie. Mais
les séances seules.
Oui, les séances, vraiment.
Mais en fait, c'est... tu te souviens que tu as été seule dans la salle. Est-ce que tu te souviens du film?
Bah, c'est quand même une histoire. C'est aussi une rom-com, mais tu sais, c'est les rom-com un peu délicates avec Patrick Bruel. J'ai un peu du mal en Patrick Bruel, rom-com. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a un rendez-vous raté, encore une fois. Peut-être qu'il aura un jour sa rom-com où Patrick Bruel va jouer un acteur et il aura un frère jumeau quelque part et le frère jumeau va se dévouer pour jouer les comédies.
J'ai envie de voir ça, tiens.
Oui, je sais pas pourquoi. Oui, je sens que vous étiez des fans de Bruel quand vous étiez jeune. Donc, il y a une tradition dans cette émission. Vous n'allez pas y échapper. Combien tu mets pour aller le voir, Perrine?
Oh, honnêtement, je mets bien 3-4 euros. Ça me dérange pas. Parce que vraiment, j'ai pas du tout passé déjà un mauvais moment, mais bon, ça c'est pas un critère, mais en soi, j'ai trouvé ça plus malin que ça en avait l'air. Donc moi, ça m'a plutôt enthousiasmé. Voilà, honnêtement, un mercredi après-midi, enfin un jeudi après-midi férié, parfait. Le parfait film du jeudi après-midi férié.
D'accord. Et toi
Ben, un peu dans le même esprit.
Matinée férié.
En fait, c'est ça, c'est que je suis allée à la séance du matin qui est moins chère, parce que j'ai pas de passe UGC. Je suis allée à la séance du matin qui est moins chère, j'aurais pas été à la séance de l'après-midi quand même.
Ouais.
Pour payer plein pot.
Donc 5
euros. Je suis à la séance tarif réduit.
D'accord, ok. Tarif réduit. Moi, je mets quand même 2 euros, moi. Ça, c'est plutôt pour une rediff du dimanche soir.
C'est pas si mal de tabac, 2 euros.
Oui, non, mais hey, tu sais quoi, ce film n'insulte pas, n'insulte personne.
Mais c'est ça, en fait.
Les acteurs ont l'air de... François-Xavier de Maison est supportable. Non, mais franchement, il y a beaucoup de
choses. Et il y a un caméo d'Anne-Sophie Lapix, et ça fait plaisir.
Il y a un caméo d'Anne-Sophie Lapix.
Tu joues très bien la présentatrice de JT.
C'est ça.
Vachement bien. Incroyable.
Mais en fait, on devrait faire toute une émission sur tous les caméos des JT, quoi. Des années de Pujadas et de tout ça qui sont.
De Claire Chazal
qui ont fait des rôles dans des petits rôles à chaque fois. Ils jouaient à chaque fois eux-mêmes pour présenter des personnages fictifs. Il y a vraiment un truc à faire. Et maintenant, c'est le moment de la reco. Je suis sûr que vous avez des recos. Et là, j'ai l'impression que vous souriez, c'est que vous avez des recos qui n'ont absolument rien à voir avec le film.
Alors,
Virginie, tu veux te lancer?
Bah, en fait, j'en ai une deuxième qui m'est venue en tête en écoutant un peu ce qu'on disait. Ma deuxième reco, donc c'est une comédie américaine, c'est Music and Lyrics, donc ça s'appelle le Comeback en français, avec Hugh Grant et comment elle s'appelle,
Drew Barrymore.
Voilà, que j'aime beaucoup cette comédie et surtout en fait, je trouve qu'il y a une vraie connivence dans les thématiques, c'est-à-dire prendre un genre populo et dire mais en fait, faut pas avoir honte d'être dans un truc un peu populaire parce que ça fait plaisir aux gens. Et c'était ça dans Music and Lyrics, c'était sur la variétoche des années 80 dans laquelle se vautrait Hugh Grant, qui était une ancienne star.
Meilleure ouverture de film ever.
Mais absolument. Superbe faux clip des années 80. Et là, c'est un peu ça. C'est la comédie française, c'est bien, faut pas cracher dedans. Ensuite, moi, ma vraie reco de départ, c'était relativement à la thématique des jumelles séparées. En fait, c'est The Parent Trap avec Lindsay Lohan et Lindsay Lohan. Mais à l'époque où c'était une actrice qui valait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle avait encore 12 ans, c'était avant qu'elle commence à prendre de la drogue. Ou alors
c'est avant The Canyons, quoi.
Voilà.
C'est bien avant The Canyons.
C'est, en fait, c'est un film qui est dérivé d'un roman allemand, en fait, qui a été adapté plein de fois au cinéma. Hein. C'est, le roman allemand s'appelle Das Doppelte Lottchen. Désolé, j'ai un très mauvais accent allemand. C'est un roman d'Erich Kästner qui est sorti en 1949, qui s'appelle Deux pour une. Et qui raconte l'histoire de jumelles qui ont été séparées à la naissance ou à la toute petite enfance et qui se retrouvent par hasard dans un camp de vacances et décident d'échanger leur rôle pour pouvoir connaître l'une son père, l'autre sa mère et ensuite de les ramener ensemble. Alors les prémices sont quand même assez dramatiques parce que je ne sais même pas dans quel monde on sépare des jumeaux à la naissance parce que les parents ont divorcé, sauf peut-être dans l'Allemagne d'après-guerre, début de guerre froide en fait, où ça disait quelque chose d'important sur cette période-là. Mais donc c'est un livre qui a été réadapté, notamment en 1998 par Disney avec Lindsay Lohan. Et justement, on parlait de tempo comique et de choses comme ça, je trouve que Lindsay Lohan, en fait, même dans une comédie Disney un peu bateau et un peu convenu et parfois très problématique, elle est elle-même très drôle, elle joue très bien pour une si jeune fille. Voilà.
Petit ange parti trop tôt quand même.
Petit ange parti trop tôt, oui. Elle jouait.
Non, mais bon.
Mais celle-là, elle est plus.
Maintenant, elle s'occupe d'un club en Grèce. Elle va très bien.
Oui.
Un club de foot.
Un club de soirée.
Non, une boîte de nuit en Grèce. Il y en a une à Athènes et je crois une autre soit à Mykonos, soit à Santorin.
Un truc comme ça.
Ouais, voilà.
Oh, ça donne envie de partir en vacances, là.
Ouais. Oui, tu crois que je vais cet été.
Voir Lindsay Lohan.
Et toi, t'as recours en Perrine la clubeuse, comment là?
Non, mais visiblement, on s'est bien trouvé parce que moi aussi, j'étais sur Lindsay Lohan, mais pas le même film. Moi, j'étais sur aussi quand elle était un petit peu peu plus vieille que sur nous quatre, mais elle était encore fraîche et dispo. C'était dans Freaky Friday, le film donc avec Jamie Lee Curtis et elle, où par une mère et sa fille ne peuvent plus s'entendre, n'arrivent plus à se comprendre, l'adolescence, tout ça. La mère doit se remarier, oh là là, et donc elle s'engueule, et finalement un restaurant chinois va leur donner des cookies, des fortune cookies, qui vont leur permettre d'échanger leur place jusjà ce qu'elle arrive à pardonner à l'autre la situation. Et en fait, donc pour le coup, là, on n'est pas sur les mêmes personnes ou des gens qui se ressemblent, etc., mais on est sur cette idée de famille et surtout l'idée de prendre la place de l'autre pour voir d'un point de vue différent ce qu'est la vie de l'autre, ce qu'on s'imagine et ce qu'est la réalité, et finalement peut-être revoir sa propre vie sous un autre angle. Ce qui est un peu aussi tout le sujet du film, puisque donc Laurette va prendre la place de Julie, et Julie va finalement pouvoir découvrir un autre monde. Laurette va pouvoir sortir aussi de sa vie. C'est pas qu'elles étaient particulièrement totalement malheureuses dans ce qu'elles vivaient, mais comme tu l'avais dit, il manquait quelque chose, et finalement elles avaient besoin d'un renouveau, et c'est ce changement de place, ce changement de point de vue qui va permettre de se recréer, de réexister. Donc comme dans Freaky Friday, qui là aussi pour le coup est une comédie à destination des adolescents principalement, mais qui fonctionne plutôt bien. Il est repassé à la télé il n'y a pas longtemps, je l'ai regardé, honnêtement.
Ah, on rit bien quand
ça
même.
Ça ne vieillit pas d'un iota, pour être honnête. Ouais.
Et moi, pour ma part, je vais recommander, je suis désolé, je vais baisser tout de suite un cran le niveau, là.
T'es pas Kinsloan?
Non, c'est un film avec François-Xavier Demaison.
Bah alors
C'est son meilleur film, et il a pas réussi à gâcher le film pour moi, même s'il est vraiment un cran au-dessous de Franck Dubosc. C'est All Inclusive, qui est sorti en début d'année.
Sérieusement, tu reviens sur All Inclusive?
Non, mais All Inclusive, tu sais quoi, il y a un truc de comédie crépusculaire, quoi. C'est le Camping 4 qu'on n'aura jamais.
C'est le Endgame de...
Non, mais clairement, il y a un truc... Et surtout, c'est un film méta, puisque ça... En fait, ça fait référence à la fois à Camping, mais aussi au Bronzé. Bon, il y a Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Mais surtout...
Là, il y a Marianne Chazelle, donc...
Ouais, non, il y a vraiment une espèce d'arc de carrière. Et ça aurait pu être génial, en fait. All Inclusive aurait pu être génial à quelques détails près.
Le regret dans cette voie, ça aurait
fait,
pu.
Je sais pas, tu sais, c'est quoi, tu reviens de Cannes et t'as vu plein de films et tu dis, il y a plein de films que je reverrai parce que t'as envie de les revoir. Moi, je reverrais bien All Inclusive parce que je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé devant mes yeux, il y a quelque chose dont j'ai été témoin et j'ai envie de le comprendre. Et je pense que All Inclusive, c'est mon film mystère, c'est le film qui travaille en moi et que j'ai envie de redécouvrir plus tard. Et je dis ça très, très sérieusement. Hein.
Je suis presque tentée.
Il y a un mystère All Inclusive. Si tu veux, on se fait une soirée All Inclusive.
Et c'est pris, rendez-vous tous les trois, on se fait une soirée All Inclusive.
Soirée All Inclusive.
Mais, alors, All Inclusive, mec. Beaucoup d'alcool, All Inclusive.
Avec un drinking game.
Tu ne me vois pas des trucs faux. Hein.
Ah non, c'est
All Inclusive, All Inclusive.
C'est le Camping 3.5, tu vois. C'est le. Merci à Quentin, mon jumeau du bout du monde à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées et tous vos applis habituels. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous parce qu'on est revenu, on est de retour, donc c'est l'occasion. Yeah, exactement, c'est la teuf. MDR est là pour vous dire ce qu'on a pensé des comédies, les bonnes et les mauvaises. La semaine prochaine, on va... Là, c'est la rentrée, on va dire ça pudiquement. Donc, rendez-vous pour une nouvelle comédie dans le prochain épisode. À bientôt, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.